Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. 14 militaires ont été tués mercredi au Niger par des djihadistes, selon les autorités du pays. La situation au Sahel semble hors de contrôle.
Que reproche-t-on à Flavio Bolsonaro? Le fils aîné du président brésilien fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Les précisions de notre correspondante au Brésil.
Le gouvernement préfère attendre un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires. La réforme des APL, les aides au logement, est repoussée. Elle entrera en vigueur en France le 1er avril au lieu du 1er janvier.
Morceau par morceau, les débris de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont étudiés pour être parfaitement restaurés. On s'intéresse ce matin au laboratoire de recherche des monuments historiques situé en Île-de-France.
Et puis, saviez-vous, Hervé, que des salades poussent dans le métro sud-coréen?
Visite, la réponse est non.
D'une ferme futuriste et automatisée, visite avec notre correspondant à Séoul. Alors que le Burkina Faso est en deuil après une attaque djihadiste, 14 militaires du Niger, pays voisin, ont été tués mercredi. Le Sahel est visé par des assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes. La situation dans la région ne fait que se dégrader. Les pays concernés semblent totalement dépassés, Bertrand Galichet.
L'embuscade qui a coûté la vie aux militaires nigériens a été tendue par des djihadistes lourdement armés, selon le ministère de l'Intérieur à Niamey, qui parle d'une bataille acharnée. L'escorte prise pour cible protégeait des agents de la commission électorale venus préparer des élections générales au Niger, prévues à la fin de l'année prochaine. Les agents électoraux sont sains et saufs. Cette nouvelle attaque, proche de la localité où 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre, prouve que la situation est déjà hors de contrôle dans la région des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Depuis le début de la semaine, les djihadistes ont tué une cinquantaine de personnes au Burkina, des raids meurtriers que les États concernés sont incapables d'affronter. Le G5 Sahel, censé coordonner la lutte antiterroriste, reste largement théorique, d'où l'inquiétude et l'impatience manifestées par Emmanuel Macron lors de son déplacement la semaine dernière en Côte d'Ivoire et au Niger pour que les chefs d'État de la région se mobilisent aux côtés de la force Barkhane.
Et un sommet réunissant les dirigeants des pays du G5 Sahel, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad est prévu à Pau en France le 13 janvier. En République centrafricaine, au moins 30 personnes sont mortes hier et avant-hier dans de nouveaux affrontements entre miliciens et commerçants dans un quartier majoritairement musulman de Bangui, le PK5, devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. C'est une immense victoire, selon les mots de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a annoncé hier soir avoir remporté la primaire de son parti, le Likoud. Il conduira donc de nouveau les législatives au mois de mars. Bibi, comme on le surnomme, a obtenu 72,5% des voix. Son rival, Gideon Saar, 27,5%. Ce dernier a reconnu sa défaite et précisé, je cite, « Ceux qui ne veulent pas prendre de risques ne gagneront jamais ». Benjamin Netanyahou, inculpé dans trois affaires pour corruption, fraude et abus de confiance, était favori. Le taux de participation était d'un peu moins de 50%. Une autre affaire politico-judiciaire au Brésil cette fois. Flavio Bolsonaro, sénateur et fils aîné du président, est soupçonné de détournement de fonds et blanchiment. De quoi mettre son père, Jair Bolsonaro, dans l'embarras quand on sait qu'il a été en partie élu sur sa lutte contre la corruption, Anne Vigna.
Le président brésilien a conclu son allocution de Noël par ces mots.
Nous terminons l'année 2019 sans aucune dénonciation de corruption.
Mais peu de Brésiliens ont été convaincus par cette affirmation. Car il y a bien eu un scandale de corruption pour la première année du mandat du président brésilien, et ce dans sa propre famille. C'est son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, qui fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Les enquêteurs estiment que Flavio Bolsonaro, quand il était député de l'État de Rio de Janeiro, détournait une partie, voire la totalité, du salaire de ses assistants parlementaires à son profit. La police soupçonne que certains de ses assistants n'aient jamais travaillé pour Flavio tout en recevant bien un salaire. Parmi eux, les membres de la famille de la deuxième épouse de son père qui ont reçu la semaine dernière la visite de la police. Dans son cabinet, Flavio en avait embauché 9. Carlos, son frère, conseiller municipal de Rio depuis 18 ans, en avait lui employé 7, dont l'ex-femme de son père. Jair Bolsonaro, le président, avait lui 6 membres de sa belle-famille comme assistants au Parlement de Brasilia. Une pratique qui semble donc familiale, même si Flavio est pour l'instant le seul enquêté par la justice en 2019.
Et la semaine dernière, le président Jair Bolsonaro a critiqué le parquet de Rio qui a fait, selon lui, un travail de cochon. Il l'accuse d'avoir donné des informations à la presse sur le contenu de l'enquête. Le grand reportage de la rédaction ce soir ne nous emmènera pas au Brésil, mais en Chine pour évoquer notamment les grandes réformes économiques menées par Pékin, en Grande-Bretagne pour parler Brexit et au Liban où une révolte populaire sans précédent secoue le pays. On fera aussi un arrêt aux États-Unis dans ce tour d'horizon des enjeux 2020 à l'étranger, car la course électorale a commencé pour le président Donald Trump. Célia Belin est chercheuse invitée à la Brookings, un groupe de réflexion installé à Washington.
2020 devrait être un référendum sur Donald Trump. Mais comme Donald Trump, tout le monde a un avis sur Donald Trump et que sa cote de popularité n'évolue pas, cela pourrait très bien se transformer en référendum sur le candidat démocrate. Et là, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus simple pour Donald Trump de présenter le candidat démocrate, surtout si c'est un peu un progressiste ambitieux, comme un radical, comme un socialiste, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment américain, comme quelqu'un qui fera du mal à l'Amérique, et donc se poser, lui, en personnalité raisonnable qu'il suffit de réélire. Les experts estiment à ce jour que Donald Trump ne peut pas gagner le vote populaire. Donc sa seule manière pour être réélu, c'est de gagner la carte électorale exactement comme il l'a fait en 2016.
Célia Belin, interrogée par Grégory Phillips. Éric Scholl, journaliste à L'Express, analysera avec Tara Schlegel les enjeux 2020. Après les reportages de Dominique André en Chine, Marina Daras en Grande-Bretagne, Aurélien Colli au Liban et Grégory Phillips donc aux États-Unis. Rendez-vous à 17h sur France Culture pour écouter le grand reportage de la rédaction réalisé aujourd'hui par Emmanuel Faucillon.
8h07, la suite de votre journal Margot Delpierre. L'entrée en vigueur de la réforme des APL, les aides personnalisées au logement, est repoussée.
Elle devait être effective à partir du 1er janvier. Elle est reportée au 1er avril. Cette réforme n'est pas remise en cause, assure le ministre chargé du logement, Julien de Normandie. Elle est censée permettre une prise en compte plus rapide des hausses et baisses du revenu. C'est la Caisse nationale des allocations familiales qui a demandé ce report, Catherine Pétillon.
Attendre un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires, c'est ainsi que le ministre du Logement, Julien de Normandie, a justifié ce report. La réforme repose sur deux grands changements. Les aides au logement seront modulées en fonction des revenus des 12 derniers mois et leur montant sera révisé tous les 3 mois. Alors qu'actuellement, il dépend des revenus perçus 2 ans plus tôt et il est fixé en janvier pour toute l'année. Pour assurer ce futur calcul en temps réel, ceux qui versent les prestations, les caisses d'allocation familiale, doivent disposer d'un logiciel intégrant ces changements. Or, en l'état, le nouveau système n'a pas la fiabilité technique suffisante, explique le directeur de la CNAF. Mais sur le fond de la réforme, rien ne change, insiste le ministre du Logement. Le décret doit d'ailleurs être signé avant la fin du mois. Politiquement, c'est quand même un report de plus pour une réforme déjà retardée. Effet collatéral, cela permet au gouvernement d'éviter à court terme une nouvelle cause de protestation. Car repoussée ou pas, la réforme à venir n'est pas juste technique, alertent les associations. En effet, ces changements de calcul auront des conséquences sociales. Par exemple, les moins de 25 ans entrant dans la vie active avec un petit salaire perdront leur APL. Jusqu'ici, des dérogations leur permettaient de la garder provisoirement. Ceux-là ont donc quelques mois de répit jusqu'à avril, date à laquelle beaucoup des allocataires de l'aide au logement seront aussi concernés par une autre réforme, de nouvelles règles de l'assurance chômage.
Catherine Pétillon. Des élus et des personnalités politiques de gauche ont prévu de se rassembler ce matin, Gare de Lyon, à Paris, pour soutenir les cheminots mobilisés contre la réforme des retraites. Ils font grève depuis le 5 décembre pour dénoncer le projet du gouvernement qui prévoit l'instauration d'un régime universel par points. Hier matin, le taux de grévistes à la SNCF était de 9,6% selon la direction du groupe. Environ 42% des conducteurs et 24% des contrôleurs l'heure ont cessé le travail. Le conflit social est désormais plus long que celui de 1995. Nous en sommes au 23e jour. 6 TGV sur 10 circulent, un Transilien sur 5, 4 TER sur 10. À Paris, 5 lignes de métro sont totalement fermées selon la RATP. 2 dépôts de bus d'Île-de-France étaient bloqués par des manifestants ce matin, annonce la préfecture de police. 300 personnes ont été délogées par les CRS d'un dépôt à Vitry. Marjorie sur scène. Le gouvernement va-t-il reculer? Plusieurs professions ont déjà obtenu des garanties. C'est le cas par exemple des hôtesses et stewards. 4 syndicats ont suspendu leur appel à faire grève à partir du 3 janvier. Ils ont été reçus lundi par le nouveau monsieur retraite de l'exécutif, Laurent Pietraszewski. Ils ont obtenu le maintien de leur caisse autonome de retraite complémentaire. Conséquence de cette mobilisation, les libraires, habituellement très occupés par leurs clients pendant les fêtes, vendent beaucoup moins de livres. C'est pourtant un cadeau incontournable à Noël. Les libraires réalisent normalement 1/5 de leur chiffre d'affaires durant cette période. Il faut préciser, Amandine Sanchez, que cette baisse des ventes cache de fortes disparités.
Le Goncourt des lycéens, le prix Renaudot ou le dernier tome d'Astérix, sous le sapin, prix littéraire et best-seller sont légion. Mais ce mois-ci, les ventes en librairie font la moue, une chute des ventes d'environ 6% par rapport à l'an dernier et 8% par rapport à 2017. Déjà, la crise des gilets jaunes avait porté un coup aux ventes en librairie et cette année encore, ce sont les grandes villes et plus particulièrement Paris qui sont les plus touchées. Grève des transports oblige, les Parisiens se sont moins déplacés pour leurs achats de Noël, jusqu'à 50% de fréquentation en moins pour les librairies du centre-ville. S'éloignant des axes de manifestation, les franciliens ont privilégié les librairies de proximité. Les 13e et 15e arrondissements et l'Est parisien enregistrent de bonnes ventes, affirme Guillaume Husson, directeur général délégué de l'Observatoire de la librairie, chez nos confrères des Échos. Si les ventes en librairie accusent une baisse de 5% depuis le début du mois, les ventes de livres en grande surface, en magasins spécialisés et en ligne, sont en hausse de 28% sur la même période. Une aubaine donc pour ces géants de la distribution.
Amandine Sanchez, ce n'est pas pour tout de suite, mais on imagine déjà le succès qu'aurait cette exposition. Le président du Louvre a pour projet d'exposer des œuvres de Notre-Dame à l'automne 2023. La cathédrale parisienne a été ravagée par les flammes en avril dernier, laissant place maintenant à un vaste chantier. En Ile-de-France, au laboratoire de recherche des monuments historiques, des équipes étudient dans les moindres détails les vitraux, les pierres, les débris récupérés après l'incendie pour savoir comment les restaurer le mieux possible. Les précisions de Jeanne Dossé.
L'une des grandes interrogations, c'est la décontamination du plomb dans la cathédrale, mais les tests menés dans deux chapelles sont plutôt rassurants, selon Thierry Zimmer, directeur adjoint du laboratoire de recherche des monuments historiques.
On descend très largement en dessous des seuils acceptables, puisqu'on part de plusieurs milliers de milligrammes par mètre carré, pour descendre sur certains des tests qu'on a faits à 74 milligrammes. Donc, on peut déplomber sans aucun problème l'intérieur de la cathédrale avec des mises en œuvre faciles qui peuvent être produites sur une grande échelle.
Le travail de l'équipe, c'est aussi pas mal d'anticipation. Il faut prévoir la manière dont peuvent évoluer les pièces récupérées. Exemple avec les pierres qui ont été arrosées copieusement d'eau pour éteindre l'incendie.
Il y a de grandes chances que ces pierres, il leur faille au plus d'un an et demi pour sécher totalement. Et il faut derrière que nous prévoyions ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau à l'intérieur des pierres, il peut y avoir des développements de sels, d'algues, de micro-organismes, dus au fait qu'il y a eu de l'humidité, etc.
Une autre bonne nouvelle, c'est qu'aucune peinture, aucune sculpture, bref, aucun trésor récupéré n'est irréparable, y compris une pièce qui inquiétait beaucoup les chercheurs.
Une petite interrogation qui était importante, c'est si les projections de poussière, d'eau et cette projection de plomb avaient eu un quelconque impact sur l'orgue. En réalité, il était déjà assez empoussiéré, ce qui est venu se rajouter dessus ne produit aucune dégradation de cet instrument.
La rénovation de la cathédrale ne commencera pas avant 2021 pour une fin des travaux prévue en 2024. C'est en tout cas la volonté politique. Avec ce délai, les 23 scientifiques du laboratoire de recherche doivent donc avancer plus rapidement sur le dossier Notre-Dame, et ce, en plus des autres monuments historiques sur lesquels ils travaillent.
Jeanne Dossé. Avant de clore ce journal, faisons un détour par Séoul. Empruntons le métro de la capitale sud-coréenne. Dans l'une des stations a été construite une ferme futuriste automatisée pour partie et dans laquelle poussent hors sol des laitues et autres produits frais. Un projet encouragé par la mairie et que nous fait visiter Frédéric Ojardias.
Station de métro Sangdo à Séoul, juste à côté des tourniquets, une ferme à l'ambiance de station spatiale, lumière rose, bruit de ventilation, blouse blanche obligatoire, les salades poussent sur des plateaux empilés jusqu'au plafond, pour entrer on passe par un sas et une douche à air. Kim Song-eun est le représentant de Farm 8, l'entreprise derrière le projet.
La douche à air et les blouses, c'est pour empêcher tout type d'insectes ou de virus d'entrer. Nous pouvons ainsi cultiver nos légumes sans avoir recours à des pesticides ou à des organismes génétiquement modifiés. Comme les conditions sont bonnes, les plantes poussent mieux. En extérieur, la récolte a lieu après 60 jours. Mais ici, entre 37 et 40 jours suffisent.
Et la pollution du métro ne se dépose pas sur les salades ?
Nous utilisons un filtre à air qui retient les particules fines. La qualité de l'air est proche de 0 ppm.
Les laitues sont tellement propres et vertes qu'on dirait du plastique. Elles sont vendues dans le métro et au restaurant du voisinage. Song Kesun, une cliente.
Ces salades sont croquantes et délicieuses. Je les achète ici parce que mon fils ne mange pas de légumes, mais ceux-là, il les mange. Même si elles sont plus chères, je préfère ces salades parce que je pense qu'elles sont bonnes pour la santé.
L'entreprise veut à présent installer ses fermes dans les sous-sols de grands ensembles d'appartements, mais ces salades, même bio, ont une lourde empreinte carbone. Leur culture nécessite beaucoup d'électricité, dont une grande partie en Corée provient de centrales au charbon.
Frédéric Ojardias, correspondant de RFI à Séoul pour France Culture. Météo France maintient aujourd'hui la vigilance orange en Charente-Maritime, toujours pour des risques d'inondation. Le ciel sinon restera gris sur la plupart du pays, avec parfois des averses, sauf dans le Midi et les Pyrénées. Les températures maximales sont de 7 degrés à Strasbourg, 9 à Lille, 10 à Paris, 14 à Bordeaux et Nice, et 16 degrés à Perpignan, Hervé.
Merci Margot Delpierre.